Radio Robot.
La radio qui botte.
Radio Robot.
Radio Robot. La radio qui botte.
Toi, derrière ton poste, tu as toujours voulu tout savoir sur les robots. Aujourd'hui, des collégiens et des collégiennes de Toulouse t'ont programmé une émission hors du commun.
Nous sommes allés autour de la place Saint-Sernin et nous avons posé des questions sur les robots à des inconnus dans la rue.
Bonjour, avez-vous un robot ?
Avez-vous un robot ?
Non, j'ai pas de robot.
Non.
Dans votre poche ?
Non.
Mais si, un téléphone peut-être ?
Ah, d'accord, ouais.
Oui.
Est-ce que vous avez un robot ? Chez vous, quelque part ?
Ouais, dans la cuisine ou quoi que ce soit.
Bah si, tout ce qui est appareil ménager robotique et tout, ça compte, oui.
Ouais, ça compte.
Bah dans ce cas, oui.
Okay.
Un robot ménager ou un robot...
N'importe.
Oui, un robot ménager, j'en ai
un. Un robot ménager, peut-être.
Avez-vous un robot ?
Non.
Est-ce que vous avez un téléphone ?
Oui.
Un téléphone, par exemple, c'est un robot ?
Pas forcément, non. Parce qu'il n'y a pas de moyen d'action sur l'environnement.
Avez-vous un robot ?
Non. Est-ce que vous avez un robot ?
Oui, je crois, oui.
Un aspirateur ?
Je suis contre.
Non, j'ai pas de robot.
Bonjour, est-ce que tu as un robot ?
Oui, enfin, bien sûr, j'ai des robots du genre des machines électroniques, mais je n'ai pas un robot à proprement parler.
Est-ce que vous avez un robot ? Par exemple, je vois que vous tenez un téléphone.
Ah,
c'est un robot. Sachez qu'un téléphone, c'est un robot.
Ouais. Je pensais plutôt aux enceintes qui interagissaient comme les aussi. Enceintes Amazon.
Bah si, tout ce qui est appareil ménager robotique et tout, ça compte, oui.
Ouais, ça compte.
Bah dans ce cas, oui.
Okay.
Bonjour, avez-vous un robot ?
Non.
Est-ce que vous avez un téléphone ?
Ouais.
Donc vous avez un robot ?
C'est malin, oui.
D'après vous, de quand date le premier robot ?
Les années 60.
C'était 1960 par là.
Ça date ça. Historiquement, j'irai chercher du côté de Da Vinci. Donc ça monte au 16e siècle.
Selon vous, c'est quoi la date du premier robot ?
Oula, je dirais 70, hein, 1970 par là.
Dans les années 2000 peut-être ?
Je dirais 1960, 1970.
Je sais pas, je dirais 19e.
D'après vous, de quand date le premier robot ?
Dans les années 40, les premiers robots.
Pas 1950 ?
Des années 60, 1960.
Des années 30 ? Allez, 40.
Vous êtes pas loin, madame.
Le premier robot, je dirais les années 60, les années 50.
Non, c'est moi aussi avant je croyais ça, mais ce premier robot s'appelait Electro. Il avait un chien robotique aussi qui s'appelait Sparko et ça a été inventé par Joseph Barney, un Américain.
Ok. Selon vous, que signifie le mot robot ?
Ouh là là, ça je connais pas. C'est...
Je sais pas. Je sais pas.
Aucune idée, hein, vraiment.
Comment dirais-je ? Un robot, c'est quelque chose d'autonome qui répète un acte répétitif.
Robotique, hein. Automatisé.
Machine qui fonctionne automatiquement.
À mon avis, ça doit être plusieurs lettres qui sont attachées à des significations.
Le mot robot, pour moi, ça, maintenant, serait intelligence artificielle, les ordinateurs, et puis tout ce qu'on a d'informatisé autour de nous tous les jours.
Ça vient du tchèque. Automate ou quelque chose comme ça. Ouh. Non, je sais plus. Enfin, c'est tchèque, c'est tout ce que je me rappelle.
Oui, effectivement, c'est tchèque. Ça vient de robota en tchèque qui veut dire travail pénible.
En quoi les robots vont-ils changer notre quotidien ?
Pas mal de trucs en fait. Parce qu'au final, c'est censé accélérer le travail et puis libérer de certaines tâches normalement.
Bah, beaucoup de choses. Ça nous a rendu la vie un petit peu plus facile. Hein.
Bah, ça change le quotidien des gens qui font des travaux pénibles, par exemple.
On va dire que ça simplifie la vie. Enfin, moi, pour mon travail, j'ai besoin de mon téléphone. Et puis, à l'école aussi, j'ai besoin des ordinateurs, etc. Mais après, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas trop se faire dépasser par toutes ces technologies et de ne pas trop oublier qu'on est capable de faire des choses avec nos mains et avec notre tête.
En quoi les robots ont-ils changé notre quotidien ?
Ils font le quotidien plus simple.
Ouais, on a plus de temps.
Ils font certaines choses à notre place. Hein.
Oui, comme quoi ?
Bah, du calcul, pour le téléphone, par exemple.
Oui.
Et puis, facile de travail dans les entreprises, dans les usines, oui. Avec le travail pénible, par exemple, pour soulever des charges. Ils le font à la place de lui-même.
On peut dire qu'ils l'ont facilité, qu'ils nous ont... qu'ils nous facilitent sur les tâches du quotidien. Surtout en cuisine,
En ménage, ça existe un peu pour le moment, mais je ne sais pas si c'est très, très utile ou pas. Voilà. Après, surtout dans l'industrie, même principalement dans l'industrie, je pense.
Ils ont changé, ils n'ont pas changé, puisque j'en ai pas. Puis j'en aurai jamais. Ça m'intéresse pas.
Pour l'instant, moi, rien du tout, puisque je ne l'utilise pas.
Bah, je pense que, admettons, mon téléphone, je l'ai parce que c'est ma génération, mais à aucun moment, je me suis dit, ah, j'ai besoin d'un téléphone parce que j'ai besoin d'un robot ou de quelque chose qui va m'enlever mon travail pénible.
Très bien.
Enfin, genre, j'ai jamais été habituée à avoir ce travail pénible.
Ah.
Parce qu'on me l'a donné.
En quoi les robots ont-ils changé notre vie?
Bah, ça nous fait gagner du temps, je pense.
Oui, bah, comme quoi?
Par exemple, j'ai un aspirateur, je passe pas l'aspirateur, le robot il est fait à ma place.
Ah,
ça nous facilite la vie et moins de travail peut-être, ouais.
Bah maintenant, quand on avait la flemme, avant on le faisait soi-même, c'était chiant, et maintenant on n'a plus rien à faire parce que c'est eux qui le font à notre place.
Bah si ça veut dire travail pénible, que le but était de remplacer les humains pour les tâches pénibles.
Okay. Est-ce que tu as l'impression, est-ce que tu as un exemple aujourd'hui de robots qui auraient remplacé nos tâches pénibles dans le quotidien?
Bah déjà le téléphone, ouais. Ça sert à beaucoup trop de choses, genre ça remplace aussi les lettres et tout, enfin tout ce qui est
ouais, la communication. Ouais, tout ce qui était écrit.
Et même par exemple, je sais pas, la machine à laver, ça remplace le lavage à la main.
Ouais. Et toi Louis, tu as une idée?
Déjà, pense, oui, c'est comme l'a dit Juliette, ça permet de faire facilement et sans aide humaine des tâches pas forcément cool à faire.
Pour vous, quel sera l'avenir des robots?
J'espère qu'ils vont pas trop se développer, que ça va être comme dans un film où ils prendraient le pouvoir.
Voilà. Oui, comme Terminator.
Par exemple.
La ferraille.
J'ai bien peur qu'on fasse des très très grosses avancées technologiques et qu'on oublie un petit peu bah, justement le travail manuel et toutes ces choses-là qui sont pourtant assez importantes et qu'on va un petit peu se retrouver dans un fauteuil à attendre que des choses viennent nous les amener par nous-mêmes sans qu'on réfléchisse par soi-même.
Quel sera l'avenir des robots? C'est vachement vaste. J'en sais rien du tout. Je pense que si on part sur un truc où on leur donne une forme humaine ou autre, il va y avoir beaucoup d'identification et peut-être même un travail émotionnel de fait. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est fait pour fabriquer des objets, pour faire tout ce qui était industrie ou autre. Et vu qu'on commence à essayer de mettre de l'intelligence artificielle dedans, donc des réactions, qu'on essaie de mettre un rapport humain, alors peut-être des robots qui seront psychologues ou nourrices ou ce genre de trucs. Quoi. Voilà.
Ça va devenir de plus en plus intelligent et on va tomber sur l'intelligence, on y est déjà, l'intelligence artificielle.
Ou l'avenir de l'homme avec les robots. La question est vaste. Je ne sais pas quoi répondre à cette question, en fait.
Ah ben, il n'y a qu'à regarder Terminator pour voir l'avenir des robots. Parce que si ça continue comme ça, on y arrivera. Petit à petit, c'est les robots qui remplaceront l'homme. Donc on n'aura plus besoin de l'homme.
Bah, je ne sais pas, si l'être humain arrive à survivre, il y aura encore des robots. Et sinon, bah, vous voulez que je vous dise, on va continuer à évoluer et ils finiront par prendre le dessus comme sur Terminator?
Pour vous, quel sera l'avenir des robots?
Je ne sais pas trop, parce que pour le moment, la technologie évolue bien. Mais dans les prochaines années, on va voir comment ça se passe avec la fin des énergies pétrole qui ont tendance à diminuer et comment va évoluer la technologie avec ça.
Moi, je dis apocalypse. Hein.
C'est ça.
Pour vous, quel sera l'avenir des robots?
Peut-être le nôtre.
Ouais. Ça va encore évoluer énormément et. On va arriver à un step, ça va vraiment beaucoup remplacer l'humain.
Moi, je voudrais pas que les robots contrôlent la planète. Ah. Ça me ferait peur.
Bah, je vous avoue que c'est mon cas aussi.
Ouais, voilà. Bah, l'avenir des robots, je pense que on voit bien les trottinettes électriques, tout ça, ça évolue. Mais je voudrais pas qu'il y ait plus de robots ou d'engins robotisés que d'humains.
Et bah, il va prendre de plus en plus de place. Hein. Il va se substituer un peu à lui-même. Et maintenant, on parle d'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va maintenant nous assister dans nos pensées.
Beaucoup plus que maintenant. Beaucoup
Par
plus
exemple,
développé.
Une image d'un film.
iRobot.
Au revoir. Merci de nous avoir accordé votre temps.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir instruit.
Merci d'avoir répondu aux quelques questions que nous vous avons posées.
Avec plaisir.
Nous avons eu la chance d'interviewer des chercheurs de l'IRIT sur les dernières avancées en robotique.
Je suis Véronique Debasse.
Je travaille au sein de ce laboratoire depuis maintenant 17 ans. Et je suis chargée de communication au sein de ce laboratoire. Ça veut dire que je suis chargée d'expliquer à différents publics ce qui se fait dans le laboratoire en matière de recherche informatique. Nous sommes dans un laboratoire de recherche publique, ce qui signifie que les moyens que nous avons pour travailler et les salaires que nous avons sont payés par les impôts de vos parents. C'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Ça veut dire que nous, en contrepartie, nous vous devons de l'information. Alors, je vais partir du début. Je pensais que c'était important de contextualiser. Donc, vous êtes dans un laboratoire de recherche en informatique, c'est-à-dire que vous êtes dans un laboratoire qui fait de la recherche scientifique, donc qui contribue à la science et donc à l'avancée de connaissances. Donc, si on récapitule, on peut dire qu'il y a une certaine méthode scientifique. Donc, vous avez là la méthode qui est décrite et qui un peu vous met sur papier ce que vous avez entendu dans le film. Donc, je ne vais pas le détailler. Ce que vous devez savoir, c'est que vous voyez, pose une question, aimer, etc. Ce qui est important, c'est... Et ensuite, on recommence. Parce que, je veux dire, quand on expérimente, après son expérimentation, on peut se rendre compte qu'il y a des évolutions à apporter. D'accord ? Donc, du coup, on va revenir à se poser une autre question. Et puis, peut-être que des rencontres avec d'autres scientifiques vont justement permettre de se poser de nouvelles questions. Alors, maintenant... Comme on est dans un labo d'informatique, il faut quand même que j'essaie de vous expliquer un peu ce que c'est la science informatique. Alors j'ai trouvé cette phrase qui a été dite, quand même, sachez-le, je pense qu'il a prononcé son discours dans les années 1930. Donc il a expliqué que la science informatique n'est pas plus la science des ordinateurs, que l'astronomie n'est celle des télescopes. Voilà, tout ça pour vous expliquer que ce n'est pas parce qu'il y a le mot informatique ici que les chercheurs cherchent forcément des choses qui sont liées à un ordinateur. Vous, par contre, vous avez souvent un ordinateur à votre disposition, donc chez vous ou pas, ou dans votre collège. Mais la science informatique, ça n'est pas que ça. D'abord, je voulais vous donner un peu d'histoire, c'est ma formation préalable d'histoire. Donc, l'informatique, on dit que les premiers concepts datent de plus de 5000 ans. En France, Charles de Gaulle, dont vous avez dû entendre parler, on lui a demandé à un moment donné, quand la question concernant l'informatique s'est posée, de dire qu'il s'agissait d'une science. On s'est dit, mais il va falloir trouver un nom à cette science. Donc, du coup, on s'est dit, l'informatique... Est-ce qu'on va appeler ça informatique, qui traite de l'information et de l'automatique, ou est-ce qu'on va appeler ça l'ordinatique? Donc ordinateur et le clic de l'automatique. Eh bien, l'Académie française a choisi de l'appeler informatique, donc la contraction des mots information et automatique. D'autres pays, et notamment les pays anglo-saxons, eux ont choisi le nom de computer science. Et computer, ça veut dire ordinateur. Donc ils n'ont pas opté pour rendre la science informatique, pour la mettre un petit peu en dehors de ce que pouvaient être les ordinateurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. L'informatique, ce n'est pas une science de la nature, c'est-à-dire qui est née de l'observation de tout ce qui concerne l'énergie, la matière et les ondes. Donc vous, par exemple, à l'école, vous apprenez la physique, vous apprenez la chimie, et il y a de la science liée à la chimie et de la science liée à la physique. Nous, en informatique, l'observation, elle se fait sur les données. Ce que j'ai appelé tout à l'heure l'information. C'est-à-dire que l'humain a généré et génère un certain nombre de données. Et ces données... on va essayer de les automatiser. Avant, on passe par quelque chose qui s'appelle les algorithmes.
Voilà. Pour moi, un algorithme, c'est juste une suite d'instructions qui est donnée dans un certain langage. Alors quand c'est une recette de cuisine, le langage, par exemple, ça va être écrit en français, et comme vous êtes français, vous connaissez les ingrédients, vous allez pouvoir suivre la recette. Quand c'est en informatique, un algorithme, c'est dans un langage que l'ordinateur va pouvoir comprendre et il va pouvoir exécuter les tâches qu'on lui demande. Et des langages pour lui donner cette information, il y en a des centaines.
Énormément. Alors les langages en question, ils sont dans ce qu'on appelle les programmes. Et ces programmes, on va les implémenter dans des machines. Ces machines, ce ne sont pas forcément des ordinateurs dans le sens où vous l'entendez, c'est-à-dire les machines comme ceci, etc. Les PC, ça peut être une voiture, par exemple. Ça peut être les robots qui sont sur les chaînes de production. Ça peut être les robots qui vont servir demain à aider vos parents et vos grands-parents pour rester à domicile, par exemple. Et à cela, il faut rajouter le fait qu'il y a encore de l'humain qui intervient. Et donc, il va falloir faire en sorte de créer des interfaces, des interactions, de faciliter la tâche de l'humain qui va devoir utiliser l'informatique dans son ensemble. Je veux dire, à l'heure actuelle, pour arriver à rentrer des données, eh bien, vous avez un clavier, d'accord ? Cette norme de clavier n'est pas la même d'un pays à l'autre, il faut le savoir. Après, maintenant, il y a la voix. Il y a tout ce qui, il y a bien d'autres moyens d'interagir. Et ces interactions, ces interfaces, il faut qu'elles soient faites de manière à ce qu'on puisse utiliser le plus aisément possible eh bien, l'informatique. Donc, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Je voudrais juste vous montrer ce dessin. Alors, c'est Guéluc, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez déjà vu des choses avec ce personnage. Eh bien... Moi, quand j'ai fait mes études, n'est-ce pas, je ne disposais pas d'un outil tel que le smartphone. Donc si je voulais écouter de la musique, eh bien j'avais un appareil qui me permettait d'écouter de la musique. Pour téléphoner, j'avais un truc de cet ordre. Pour les photos, ben, on était avec un album. Et puis on faisait des photos avec un appareil photo. Et maintenant, eh bien, ben, ils ont réussi à mettre tout ça dans un smartphone. Et le ILS, eh bien, c'est notamment les chercheurs en informatique. Mais pas que. Parce que les chercheurs en informatique, c'est une chose. Mais déjà, il faut que vous sachiez que ce sont les chercheurs en informatique, mais pas uniquement ceux qui se trouvent au sein de ce labo. C'est-à-dire que je veux aussi vous dire que la recherche scientifique, elle se fait avec la contribution eh bien, de beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de chercheurs, qu'ils soient de n'importe quel pays du monde. Et il y a des éminents chercheurs qui sont aux quatre coins du monde. Et l'importance, c'est le dialogue qu'il peut y avoir entre ces chercheurs de manière à faire avancer la connaissance. Et pas uniquement des chercheurs en informatique. Il y a aussi, par exemple, on va travailler, les chercheurs en informatique ils peuvent travailler avec des physiciens, avec des linguistes. Chez nous, il y a des gens qui travaillent avec... Donc, linguiste, c'est ceux qui étudient la langue, tout ce qui concerne les langues. Ensuite, il va y avoir des chercheurs aussi en sociologie, avec qui on travaille. Il va y avoir des chercheurs en psychologie. Donc, tout ça, c'est très complexe. Peut-être que vous reviendrez à l'IRIT, que vous viendrez faire votre stage de troisième, comme les cinq collégiens qui sont derrière, et où on pourra vous donner une idée de toutes les recherches qui se font au sein de ce labo. Donc aujourd'hui, vous allez en voir juste un tout petit pan de cette recherche. Et après, ben, je vais regarder ces questions et j'essaierai de pouvoir y répondre. Et de toute manière, j'ai vu que bon nombre de ces questions, eh bien, il y a des réponses.
Alors, c'est à moi de répondre. Alors, pour l'instant, le projet de recherche qui m'a pris le plus de temps, que moi, je débute ma carrière, bah, c'est ma thèse. Alors, une thèse, vous savez ce que c'est, à peu près ?
Non.
Alors, en fait, quand vous faites vos études, Disons que si vous, après le bac, vous pouvez faire aller à l'université ou passer par d'autres écoles, mais en gros, au bout de 5 ans, vous arrivez à un niveau qu'on appelle le master. Donc au bout de 3 ans, vous avez une licence, au bout de 5 ans, vous avez un master, et là, vous pouvez commencer ce qu'on appelle un doctorat. Quand on dit doctorat et thèse, c'est un petit peu la même chose, et là, ça dure encore 3 ans. Et pendant ces 3 ans de doctorat, en fait, on est un peu comme chercheur apprenti. C'est-à-dire qu'on fait du travail de recherche, mais il y a un chercheur plus âgé et plus expérimenté qui nous suit, un peu comme un maître de stage, si on veut, et qui va nous, voilà, nous guider pour apprendre le métier. Et au bout de 3 ans, on rédige un rapport qui s'appelle une thèse, qui fait, selon les disciplines, 100-150 à beaucoup plus de pages. Et on présente notre travail devant un jury, voilà, qui va dire, d'accord, bah, vous avez fait un travail suffisant, donc on valide votre thèse. Et donc ça, finalement, ce projet-là de thèse, ça dure 3 ans. Donc pendant 3 ans, vraiment, on n'est que sur ça à fond. Donc finalement, pour l'instant, c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Alors moi, j'ai travaillé sur le titre exact, c'était « Utilisation d'une assimilation d'ensemble », donc avec les différentes courbes, là, les différentes simulations, pour modéliser des covariances d'erreurs d'ébauche dépendantes de la situation météorologique à l'échelle convective. Mais en gros, je faisais l'estimation déjà de cette incertitude avec un ensemble et sur un modèle qui est à très fine échelle, qu'on dit échelle convective.
Quelle est la plus grande découverte que vous ayez faite ?
Du coup, je pense que c'était ce que j'ai fait en fin de thèse ou en début de... après ce qu'on appelle un post-doctorat, donc c'est les premiers postes. Ça va être un peu compliqué à expliquer, mais en fait, quand on a plusieurs prévisions, donc on a plusieurs prévisions pour estimer l'incertitude. Si on voulait avoir une vraie estimation de l'incertitude, il en faudrait, pareil, il en faudrait 1 million. Mais en fait, on a les moyens d'en faire que 100, par exemple, ou même 20, des fois. On n'a pas assez de puissance de calcul. Et donc, ça veut dire que l'estimation qu'on va avoir de l'incertitude, elle n'est pas exacte. On va essayer de corriger cette estimation d'incertitude, de la nettoyer, de la filtrer. Et donc moi, j'ai développé une méthode qui permet ça, de faire ça de manière générale. Donc c'est compliqué, mais c'était ça. Voilà, et du coup, après, ça a été publié. Et maintenant, c'est utilisé par d'autres gens aussi.
Avec quel pays collaborez-vous ?
Ah, excellente question. Je travaille principalement avec un laboratoire. Bon, je travaille à Toulouse, je suis à l'IRIT, mais je travaille avec des gens encore des fois à Météo France et au CERFAX, qui est un autre laboratoire qui est sur le site de Météo France et qui fait de la recherche en mathématiques et en informatique aussi. Et je travaille beaucoup avec des gens aux États-Unis, donc dans le Colorado. C'est là où j'ai fait mon premier poste après ma thèse. Donc je continue de travailler beaucoup avec eux. Donc il y en a qui sont dans le Colorado, d'autres à Washington, et avec des gens aussi en Angleterre, avec le Met Office. Donc c'est le Met Office, c'est comme Météo France, mais en Angleterre. Donc plutôt les États-Unis et l'Angleterre.
Combien de personnes travaillent à l'IRIT ?
Il y avait 862 personnes dans le laboratoire le 20 novembre 2019. En fait, on a une base de données qui nous permet de savoir au jour le jour combien de personnes travaillent dans ce laboratoire.
Dans quel but a été créé l'IRIT et depuis quand existe l'IRIT ?
Alors, l'IRIT a été créé en 1990. Donc c'est très récent, la création de l'IRIT. Et c'est la création de l'IRIT sous l'appellation IRIT. Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et en fait, l'IRIT, il est issu de 3 laboratoires de recherche qui existaient déjà, mais qui étaient petits. D'accord ? Au départ, ces 3 labos, ils devaient faire 10 personnes chacun. Comme c'était des gens séparés, qui travaillaient séparément, ils se sont dit quand même, c'est dommage que nous travaillions séparément, parce que si nous nous unissions, on dit que l'union fait la force, et là, c'est exactement ça. Eh bien, si nous nous unissions, eh bien, on serait sûrement plus efficace. Donc, du coup, c'est comme ça qu'ils ont créé l'IRIT. Donc, l'IRIT, en 1990, eh bien, il y avait 50 personnes. 5 ans plus tard, ils étaient 100. 10 ans plus tard, 200. Et voilà. Et nous sommes à 30 ans. Nous allons fêter nos 30 ans aujourd'hui. Et nous sommes à plus de 800. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh bien, nous avons eu un directeur qui, je pense, avait cette idée qu'il fallait vraiment que nous unissions nos forces en informatique à Toulouse, parce que ce serait beaucoup plus efficace, et que nous arriverions à avoir des moyens communs qui fassent en sorte qu'on puisse mieux travailler.
Quels sont les 6 domaines de recherche de l'IRIT ?
Donc ça, ce sont les grands départements de recherche, voilà, qui sont à l'heure actuelle à l'IRIT, vous avez les noms. Ça veut dire que l'informatique, si je schématise, d'accord, nous avons des gens ici, au sein de ce laboratoire, qui travaillent à la fois à faire en sorte que les microprocesseurs
qui sont dans les machines de vos ordinateurs ne fassent même plus cette taille, mais fassent la taille de votre ongle, ok ? Si je dois schématiser, ok ? Pareil pour les supports de mémoire. Et ensuite, il y a des gens qui travaillent sur de l'intelligence artificielle, et notamment un chercheur qui travaille avec des psychologues pour essayer de voir comment on peut modéliser, créer un modèle informatique pour rendre des émotions sur un robot. Eh bien, tous ces gens-là, ils travaillent au sein de l'IRIT. Donc vous comprendrez qu'ils ne vont pas forcément travailler ensemble, mais leur discipline commune, c'est l'informatique, c'est-à-dire l'automatisation de l'information.
À propos de l'IA, à partir de quand peut-on dire qu'il y a une intelligence artificielle ?
Alors, je vais essayer de répondre rapidement. Ce n'est pas vraiment ma discipline, mais l'intelligence artificielle, en fait, c'est plutôt un terme général qui va regrouper pas mal de méthodes différentes qui étaient séparées avant. Et maintenant, pour que ce soit plus visible, qu'on en parle plus, on a mis ça sous le terme d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est assez compliqué dans le sens où ce qu'on appelle l'intelligence artificielle a beaucoup évolué dans les années. Quand on était dans les années 70, on voulait vraiment essayer de reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain, comprendre comment ça fonctionnait. Et maintenant, on fait des choses un peu différentes. On a des algorithmes ou des méthodes qui vont permettre, par exemple, de reproduire certaines fonctions. C'est-à-dire, par exemple, vous, quand vous voyez une voiture, vous êtes capable de savoir que c'est une voiture. Quand vous voyez une photo de chat, vous êtes capable de voir que c'est un chat. Et donc, maintenant, on a des méthodes qui permettent de faire ça aussi. Donc, quelque part, c'est comme si elles étaient un peu intelligentes, d'où le terme intelligence artificielle. Mais par contre, la manière dont elles le font, c'est pas vraiment la même manière que votre cerveau fonctionne. Donc on est quand même dans des choses assez distinctes. Et par exemple, si on entraîne un algorithme d'intelligence artificielle, on peut lui apprendre à reconnaître des photos de chats. Donc après, quand on lui donne des photos, il va savoir oui, c'est un chat ou non, c'est pas un chat. Il y a des choses comme ça qu'on arrive à faire. Par contre, il y a des choses, apprendre à un robot à plier un drap, ça par exemple, on ne sait pas faire. C'est très compliqué. Donc il y a des choses qui nous paraissent difficiles, des calculs très compliqués qu'une machine va savoir très bien faire. Mais il y a des choses toutes simples comme plier un drap. Ça, apprendre ça à un robot, c'est très difficile. Et donc, le terme intelligence artificielle, ça ne veut pas dire qu'on va réussir à faire un programme qui se comporte comme un être humain. C'est vraiment pas ça. Mais il y a quelques petites fonctions de l'intelligence humaine qu'on va réussir à reproduire, qu'une machine va réussir à faire. Mais elle ne fera pas tout.
Alors moi, je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'ai une autre image à vous donner. J'ai entendu un chercheur il y a pas longtemps, Denis Mouria, qui disait: à l'heure actuelle, une intelligence artificielle n'est pas capable de répondre à la question « Quel est l'hippopotame qui a gagné Roland-Garros en 1990 ?» D'accord ?
Non, c'est une bonne.
C'est-à-dire que dans cette question, il y a un certain nombre de données qui font qu'à l'heure actuelle, seul le cerveau humain peut faire le lien avec le fait que, vous avez vu comment c'est fiché un hippopotame, et qu'il est illogique de penser que, vu les membres qu'il a, il soit capable de jouer au tennis. D'accord ? Donc, par exemple, cette question, d'accord, on peut la poser à une intelligence artificielle, il ne va pas savoir y répondre. Par contre, un humain de votre âge, eh bien, est tout à fait capable, au bout d'un certain temps, voilà, rapidement, de dire « c'est pas possible, un hippopotame, ça ne peut pas gagner. » Et à l'heure actuelle, il y a des intelligences artificielles qui arrivent, en effet, à battre les champions d'échecs, de go, etc. Ce qui n'était pas possible, on pensait que jamais ça n'arriverait. Et maintenant, ce sont des machines qui battent les champions de go, d'échecs, etc. Mais par contre, il y a toute une série de choses qui ne sont pas encore possibles par l'intelligence artificielle et même des choses
très simples que les machines n'arrivent pas à faire, pas encore.
Au niveau de l'IA, vous avez parlé que l'IA, par exemple, sur les outils, sur les montres, elle peut reconnaître une photo de chat, par exemple.
Ouais.
Nous, l'humain, on la reconnaît parce qu'on l'a vu, on nous a expliqué ce que c'est.
Ouais.
L'IA, elle l'a pas vu, juste qu'on lui a expliqué ce que c'est.
Justement, on l'a beaucoup entraîné. On lui a fait passer plein de photos en lui montrant, en lui disant, ça c'est une photo de chat, ça c'est pas une photo de chat. Et on a passé énormément, et elle, pour chaque photo, elle va décomposer la photo, et à force d'entraînement, elle va réussir à analyser les petits éléments qui font que c'est un chat ou que c'est pas un chat. Et alors, ce processus qu'on appelle l'entraînement du système, ça prend énormément de temps, énormément de ressources de calcul, d'informatique. Et si on ne fait pas ça, si on fait juste lui donner une photo de chat, il ne saura pas. Il faut vraiment l'entraîner longtemps. Et par contre, après, il peut être très bon pour savoir si c'est un chat ou pas. Mais il y a aussi un entraînement, finalement, comme nous, sauf que c'est sûrement encore beaucoup plus coûteux et plus long que pour un être humain.
Et tu contribues à cet entraînement.
C'est ça.
Parce que quand toi, par exemple, tu postes une photo sur Insta, sur les réseaux sociaux, regardez mon chat comme il est beau. D'accord ? Et donc, du coup, si tu veux, il est très facile, du coup, de faire le lien entre le mot chat et l'image que tu as postée. Donc, tout ça contribue à faire que les machines peuvent s'entraîner.
Donc après, elle peut utiliser cette photo dans le processus d'entraînement en disant « Ah oui, là, sur cette photo, il y a un chat. »
Quels sont les futurs projets de l'Hérite ?
On ne peut pas vraiment répondre à cette question, parce qu'en fait, des projets, on en a tous les jours, des projets. C'est l'essence même de la recherche, c'est-à-dire que ce sont des défis qui sont lancés. Et ces défis, ils sont lancés au quotidien. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, il faut que vous sachiez que, par exemple, nous avons des projets qui nous sont demandés à un niveau local, par exemple la mairie de Toulouse. D'accord ? Ensuite, on va avoir d'autres projets qui vont être demandés à un niveau du Grand Toulouse, c'est-à-dire Toulouse et autour. D'accord ? Où ils ont de l'argent, ils se sont fixés des objectifs et ils se disent on voudrait collaborer avec les villes, puisqu'on a vu qu'ils étaient experts dans ce domaine. Et on va aller leur demander, est-ce qu'ils peuvent nous aider à mettre en place tel projet. Ensuite, il y a des projets qui vont naître à un niveau national. Par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel Macron et son gouvernement a décidé qu'ils allaient privilégier l'IA, l'intelligence artificielle. Donc il y a eu un gros projet autour de l'intelligence artificielle et ils ont décidé qu'il allait y avoir la création de laboratoires d'excellence autour de l'IA. Donc du coup, vu qu'à l'IRIT, il y avait des spécialistes, eh bien, nous faisons partie de ce laboratoire d'excellence en intelligence artificielle. Mais après, il peut y avoir aussi des demandes à un niveau européen. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui va dire, eh bien, nous, on est à l'heure actuelle, par exemple, sur la prévision météo, c'est un très bon exemple, ouais. Je pense.
Moi, c'est même une demande qui vient, du coup, c'est un laboratoire américain qui envoie de l'argent à l'IRIT pour qu'on travaille avec eux sur le domaine sur lequel je travaille.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai
un travail sur le futur système qui sera utilisé pour la météo, pour faire les prévisions, et par les États-Unis et par des partenaires en Angleterre et en Europe.
Donc, là, on arrive au niveau international. Et tous ces projets, eh bien, ils arrivent, voilà, au fil de l'eau, en continu. Et ces projets, ils ont des temps d'exécution qui sont différents selon que c'est un projet municipal ou un projet international. Voilà. Bon, en moyenne, on va dire que c'est 3 ans, un projet, quand il dépasse le niveau.
Généralement, moi, par exemple, c'est 3 ans au départ et peut-être prolongeable de 2 ans si on a encore de l'argent et des choses à faire. Des choses à faire. Ça peut.